Que devons-nous à la Grèce antique? En quoi sommes-nous redevables de ce passé ancien, ensoleillé, de l'Athènes du 5e siècle? On dirait deux choses, la philosophie, la démocratie. On aimerait tellement que ça soit la philosophie et la démocratie, la philosophie avec la démocratie. On aimerait tellement voir Socrate sur l'agora, converser avec des citoyens qui l'interpelleraient et lui répondraient, et de ce dialogue naîtrait un accord raisonnable qu'on appellerait la politique. Alors tout serait raccordé. Alors ce que nous devons à la Grèce, la démocratie et la philosophie, seraient ensemble dans une même scène apaisée. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. À cette scène rêvée, on peut en effet en opposer une autre, bien réelle, qui, d'une certaine manière, est le cauchemar de la démocratie. Nous sommes sur l'Agora, en 399 avant notre ère, et des citoyens mettent en accusation Socrate. On l'accuse de ne pas reconnaître les dieux de la cité, d'introduire des divinités nouvelles et de corrompre la jeunesse. On va le juger et le condamner à mort. Mais pour rendre à la légende socratique des contours un peu plus nets, il convient d'abord de répondre à une question simple. Qui est ce philosophe que les Athéniens condamnent en 399, mais dont la statue néoclassique trône aujourd'hui devant l'Académie d'Athènes, à côté de celle de Platon? Lorsqu'il naît, en 470, Athènes vit depuis une quarantaine d'années en régime démocratique, depuis les réformes de Clisthène de 508-507. Socrate a 20 ans quand débutent les grands travaux sur l'Acropole. 30 ans lorsque Périclès se fait régulièrement élire stratège. 40 ans lorsque débute la guerre du Péloponnèse. Il accompagne donc toute l'histoire athénienne du 5e siècle. En 399, il est devenu un personnage public. Si le procès de Socrate fait date, ce n'est donc pas seulement dans l'histoire d'Athènes au tournant du 5e et du 4e siècle. D'une certaine manière, ce scandale est encore le nôtre aujourd'hui. Et l'affaire Socrate continue jusqu'à nous, comme si l'on ne cessait, depuis lors, d'instruire le procès de la démocratie. Si je vous dis la mort de Socrate, vous avez sans doute une image en tête. C'est le tableau de David, c'est le fameux tableau de David de 1787, qui est d'ailleurs dans la suite de toute une série de tableaux des Lumières qui prennent cet événement pour interroger le rapport entre la censure, le fanatisme et la libre pensée. David n'est donc pas le seul à représenter l'événement, puisque la mort de Socrate est en 1762 le premier sujet non biblique choisi par l'Académie pour son prix de Rome. C'est d'ailleurs un décor et des costumes plutôt romains que représente le jeune peintre, qui n'est jamais allé en Grèce. Autour de Socrate, on peut identifier certains des personnages présents. Criton, son ami le plus proche, ou Apollodore, son jeune disciple. Et puis, il y a cet homme qui tourne le dos à la scène. C'est Platon. Il a 29 ans à la mort de son maître, mais David a préféré le peindre en vieillard, car c'est sur ses épaules que va reposer la mémoire de la scène et l'image du philosophe. Socrate, en effet, n'a rien écrit. Sa pensée et son enseignement ne sont parvenus jusqu'à nous qu'au travers des écrits de Platon et d'un autre de ses disciples, Xénophon. Voici le moment décisif. Socrate vient de dire adieu à sa femme et à ses enfants qui quittent la prison en pleurant. Et voyez, un esclave public tend à Socrate une coupe pleine de poison, la ciguë. Il est sur le point de s'en emparer. Il consent à sa propre mort, au nom de valeurs supérieures qu'il semble pointer du doigt. David peint le moment exact où Socrate consent à sa propre mort. Et consent à sa propre mort au nom de valeurs qu'il désigne du doigt comme quelque chose qui va lui survivre, un ciel, assurément. Pas nécessairement un ciel chrétien, le ciel des idées, le ciel des valeurs. David est un peintre des Lumières qui exalte dans cette figure socratique la libre pensée, la victoire posthume contre la censure, contre l'Église, contre les forces obscurantistes, contre tout ce qui viendrait censurer la liberté de penser. Ce qu'évoque aujourd'hui le nom de Socrate, ce n'est donc pas l'événement athénien de 399 avant notre ère, mais son fantôme. Car de même que, dans les dialogues de Platon, le personnage de Socrate s'invite toujours à l'improviste, de même son procès surgit comme un spectre pour hanter notre conception de la démocratie et du pouvoir des intellectuels.
So I went to a politician with a reputation for wisdom. But when I spoke with him, I could not help thinking that he wasn't really wise at all, no matter what people said. I tried to explain that to him, but he became irritated with me. I thought, well, neither of us knows anything really beautiful or profound, but at least I am better off than this fellow, because he knows nothing and thinks he knows everything, while I know nothing.
Socrate, c'est un maître de vérité qui offre, au fond, le savoir le plus précieux qui est sa propre ignorance. Socrate est sage de son ignorance. Et il laisse venir à lui les questions, c'est ce qu'on appelle la maïeutique, c'est-à-dire faire accoucher celui qui interroge de la vérité qu'il a en lui et qui va se construire par le dialogue. Son enseignement s'inscrit dans ce courant né au 5e siècle, celui des sophistes, ces maîtres qui font profession de leur savoir sur les sujets les plus variés, et en particulier sur la rhétorique, l'art de convaincre par le discours. Donc, on peut dire que Socrate est un sophiste comme les autres. Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que les sophistes se font payer leur philosophie. Or, Socrate est, au contraire, le maître désintéressé, celui qui offre avec libéralité son savoir comme un trésor. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la spécificité de Socrate dans la philosophie antique, c'est qu'il est un maître de vérité qui se fait payer son enseignement par une adhésion sans faille. Qu'est-ce que demande Socrate à ses disciples, à ses jeunes disciples ? Qu'ils le suivent, qu'ils soient avec lui. Alors oui, il y a un côté, on va dire, un peu gourou. Oui, il est célèbre, mais sa célébrité est clivée. Il est célèbre comme philosophe, il est de son vivant même un personnage de fiction. En 423, Aristophane fait jouer sa pièce « Les Nuées » ici même, dans le théâtre de Dionysos, au cœur d'Athènes. C'est une comédie, une charge féroce contre Socrate et contre son école, le pensoir, où l'on apprend les ruses de l'argumentation sophistique pour mépriser l'autorité des pères et bafouer les dieux.
Oh, Socrates!
What do you want, mortal?
What are you doing up there?
I walk upon the air and elevate my mind. Only up here, dangling my vast intellect in the heavens, can I scientifically perceive the secrets of the universe.
By Zeus, what marvelous words!
Zeus? Did I hear you say Zeus? Are you mad, sir? There is no Zeus.
La pièce s'achève avec la disparition de l'école dans l'incendie qu'un père excédé a fini par provoquer. Donc le procès de Socrate a été joué avant d'être intenté. 24 ans plus tard, il se déclenche. Mais qu'est-ce qui déclenche le procès de Socrate ? Une plainte. Une plainte contre lui. Une plainte que l'on peut lire aujourd'hui. Alors certes, par l'intermédiaire d'un auteur tardif, mais ça reste quand même exceptionnel. Tout est exceptionnel dans cette affaire. On n'a pas d'autres exemples d'un intellectuel publiquement accusé d'impiété. Mais on n'a pas non plus d'autres exemples d'une plainte qui est même indirectement, documentée.
On y lit ceci. Voici la plainte déposée sous serment par Mélétos, fils de Mélétos, contre Socrate, fils de Sophronisque. Si le visage de l'accusé est parvenu jusqu'à nous, celui de l'accusateur est accessible seulement à notre imagination.
Donc Mélétos est un personnage relativement obscur et les historiens cherchent évidemment derrière lui des personnages plus connus, plus puissants, qui pourraient, sinon le manipuler, du moins l'accompagner.
Et en effet, Mélétos est soutenu par deux co-accusateurs, deux hommes politiques partisans de la démocratie dont on connaît les noms, Anytos et Lycon. Socrate enfreint la loi, affirme-t-il, parce qu'il ne reconnaît pas les dieux de la cité et qu'il introduit des divinités nouvelles. Il enfreint également la loi parce qu'il corrompt la jeunesse. Peine requise, la mort.
Alors on peut décrire les protagonistes du procès, mais peut-être que le plus important, c'est le lieu lui-même, le décor, qui est peut-être le personnage principal de cette intrigue. On pense tribunal, on pense juge, c'est-à-dire qu'on pense avec nos catégories. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que ce tribunal, il est à ciel ouvert.
C'est probablement ici, à Athènes, au pied de l'Acropole, qu'a eu lieu le procès de Socrate. Au Ve siècle, la justice athénienne est confiée à des juges tirés au sort parmi les citoyens. Dans le cas d'un grand procès comme celui qui nous intéresse, ils sont au nombre de 500. Les archéologues peinent à identifier un bâtiment assez vaste pour abriter une assemblée si nombreuse. 500 juges, sans compter les supporters des deux camps. On a donc fait l'hypothèse que le procès avait pu se dérouler en plein air.
Les lieux parlent, et les lieux nous disent quelque chose d'essentiel. C'est qu'un procès, dans la Grèce antique, c'est un combat, un concours, ce qu'on appelle en grec un agone. En tout cas, c'est une scène politique. On est au cœur de l'espace politique, au vu et au su de tout le monde. On est au centre, à l'épicentre de l'espace topographique de la délibération. On est dans l'agora. Tout se passe au soleil.
Paulin Ismar est historien, spécialiste des cités grecques et du procès de Socrate.
Alors nous sommes ici sur l'agora d'Athènes, donc vraiment dans le cœur battant de ce que fut la démocratie athénienne à l'époque classique. Donc c'est à la fois un grand espace ouvert qui est pour tous les habitants d'Athènes avant tout un espace de rencontre, de sociabilité, et c'est en même temps le lieu où les principales institutions politiques de la cité vont progressivement s'installer à partir du début du 5e siècle avant notre ère. Il n'y a pas de certitude sur l'endroit précis où s'est déroulé le procès de Socrate. Mais une hypothèse très éclairante consiste à imaginer que le procès a eu lieu juste en contrebas du temple d'Héphaïstos.
En dessous du temple se trouvent en effet quatre vastes bancs de marbre de 37 mètres de long. Et peut-être une cinquième rangée, ce qui aurait assuré les 500 places assises nécessaires. C'est ici donc que se joue le procès, en une seule journée. Il n'y a pas d'avocat, tout va dépendre des plaidoiries que Mélétos et Socrate vont prononcer.
Pour essayer de reconstituer le procès de Socrate, ce qui s'est vraiment déroulé à Athènes en 399, la source la plus